Non.
Alors, Vavre.
Prénom?
Dominique.
Bonjour Dominique.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous pour nous parler de ton histoire de capornier. Avant d'en arriver là, je suppose qu'il y a eu un long apprentissage et une longue histoire que tu vas pouvoir nous raconter. Et peux-tu nous dire par où tu as commencé et à quel endroit, par exemple?
Oula, oui, effectivement, ça part de loin. Bah, les premières navigations sont sur le lac Léman, une famille de sportifs. Et puis, assez vite, avec un esprit de compétition assez fort, j'ai embarqué avec Pierre Fellmann pour mes premières courses autour du monde en équipage. J'en ai fait quatre. Ensuite, j'ai fait des Vendée Globe et puis deux tours du monde avec Michel, ma femme, pour la Barcelona World Race. Donc, ça fait un total de. J'ai franchi 9 fois le Cap Horn en course, en fait.
Et quels sont tes premiers souvenirs? Donc c'était sur le lac Léman?
Oui, les premiers souvenirs de navigation sont sur le lac Léman. Bon, très très vite en Bretagne, en fait, parce que le lac Léman, c'était quand même un petit peu étroit, un peu coincé entre le Jura et les Alpes. Très vite, j'ai navigué en Bretagne et j'ai adoré ça par les premiers Tours de France à la voile et ensuite à Solitaire du Figaro, que j'ai fait 4 fois. Et vraiment, j'ai adoré ça, j'ai adoré la Manche, la Bretagne, toute cette partie maritime qui m'intéressait finalement plus que le Léman. Le Léman, j'y venais pour faire le Bol d'Or, faire quelques régates très techniques. Mais l'aspect maritime, l'aspect passer des nuits en mer m'intéressait finalement plus que les régates diurnes du lac Léman.
Très bien. Et toute cette période, je suppose, a été nourrie de lectures, de films et sans doute de rencontres de marins exceptionnels qui t'ont attiré ou entraîné dans leur histoire. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus?
Ben oui, effectivement, parce qu'en Suisse, en hiver, c'est quand même difficile de naviguer. Je faisais du dériveur à l'époque, donc il y avait une grande part de lecture. Ça fait évidemment les Moitiossier, les Tabarly, tous les grands classiques, les Damiens aussi. Donc ça combinait le côté aventure et le côté régate. Et puis le côté régate pur m'a amené à coacher l'équipe française à San Diego pour l'America's Cup. Et le côté maritime m'a amené vers la solitaire du Figaro et vers la course autour du monde en équipage. Donc en fait, c'était un petit peu le tout qui m'intéressait, c'est le d'être en mer qui me satisfaisait le plus.
Et dans ce long palmarès que tu as, parce que je pense qu'effectivement, tant dans les 1000 parcourus, avec ces passages de Cap Horn nombreux et ces courses, le Figaro, évidemment, qui est un passage quasiment obligé, mais quelle serait, s'il y en avait une, ta plus belle victoire? Sur
Oula,
toi, ou sur les éléments, ou sur les concurrents?
oui, bah écoute, en fait, c'est des accomplissements, ce n'est pas vraiment des victoires dans le sens où c'est sur le podium et autres, parce que ça, il y en a eu quelques-uns, mais c'est plutôt des accomplissements. D'abord, finir les Vendée Globes, j'en ai fini 3 sur 4, ça a été des accomplissements à chaque fois, c'était vraiment, vraiment superbe. Également, quelques courses autour du monde, parce qu'il y a des symbioses d'équipage qui sont extraordinaires. Et qui ramène un côté humain absolument fabuleux. Ça, ce sont d'excellents souvenirs. Puis la solitaire du Figaro aussi, j'ai eu 2 classes de 2e à la solitaire du Figaro. C'est un accomplissement parce que tout d'un coup, tu prends confiance en toi. Et c'est cette confiance en toi qui te permet ensuite d'aller chercher des sponsors, de te lancer dans le Vendée Globe. Et c'est un espèce de passage obligé, comme tu dis. Mais ce passage obligé-là t'amène énormément de satisfaction.
Et dans toutes ces aventures, tu as eu de nombreux bateaux auxquels on s'attache évidemment. Et là aussi, quel est celui auquel tu t'es attaché? Ce n'est pas forcément le plus grand, le plus rapide. C'est le bateau avec lequel on a vécu les plus belles aventures ou avec lequel on a partagé tant de choses.
Oui, tout à fait. Ce n'est pas forcément ceux qui allaient le plus vite, effectivement, ou ceux qui étaient le plus aboutis. Mais là, c'est mon dernier bateau. C'était le Mirabeau, qui a commencé comme nom Temenos. Parce qu'en fait, j'ai une fascination pour les mers du Sud. Et lui, dans les mers du Sud, il a cassé sa tête de quille au sud des Kerguelen. C'était une opération de sauvetage assez angoissante. J'ai dû ramener le bateau avec la quille cassée des Kerguelen en Australie, 2500 milles dans les 40e. Assez angoissant, c'est-à-dire que c'est le niveau de stress le plus élevé que j'ai eu. Mais résultat, on tisse un lien avec son bateau de sécurité, de solidarité, qui est absolument exceptionnel. Et c'est ce bateau-là avec lequel aussi j'ai fait 2 tours du monde avec ma femme, avec Michel, la Barcelona World Race. C'est ce bateau-là qui m'a le plus marqué. Quand je pense en mer, je pense à ce bateau-là.
Oui, le bateau qui te ramène au port et toi qui ramènes le bateau au port.
Oui, c'est exactement ça. Et ça tisse des liens assez particuliers, effectivement, parce qu'il
Oui,
y a énormément d'émotivité. Et puis, il y a le fait aussi que ce sont des bateaux qui nous ont emmenés dans les mers du Sud. Les mers du Sud, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, le gros temps, j'ai toujours adoré ça. Et c'est ces bateaux qui nous ont emmenés dans le Grand Sud qui m'ont le plus fasciné. Beaucoup plus que les bateaux très techniques sur lesquels on peut naviguer en Manche ou dans des eaux plus tempérées ou sur le Léman ou en Méditerranée. C'est vraiment ces bateaux dans les mers du Sud, la manière dont ils se comportaient, qui m'ont le plus séduit et avec lequel je me suis senti en symbiose.
alors, je suppose que c'est corrélé aussi avec le plus grand. S'il y a un moment le plus heureux en mer, il est sans doute aussi dans les mers du Sud, d'après ce que je subodore.
Oui, tout à fait. C'est des moments de plénitude qui sont assez difficiles à expliquer parce qu'en fait, on rentre dans les mers du Sud un beau jour, tout d'un coup, on sent qu'on y est parce que l'océan prend un autre souffle. La houle, le ciel, toute une espèce de pureté, une espèce de sauvagerie aussi, dans lequel finalement on se sent bien. Et à un moment donné où tout est en adéquation, la toile du bateau, la vitesse, la mer, la manière dont ça se prend, un ciel absolument fabuleux et pur. Et là, tout d'un coup, on sent qu'on est à sa place avec son bateau au bon endroit. Et là, c'est des sentiments qui sont assez inexplicables, mais on a le sentiment exact d'être en parfait bonheur, d'être en parfaite adéquation avec son milieu, avec ce qu'on fait. Ça, c'est des moments exceptionnels qu'on rencontre pas tellement dans la vie terrestre, parce que dans la vie terrestre, on a toujours quelque chose qui vient compliquer, qui vient perturber, qui vient en arrière-plan de soucis. Alors qu'en haute mer, finalement, on a laissé tous les soucis au port, on a éteint tous les portables, on a juste soit le bateau, les décisions à prendre et l'adéquation avec la météo et les vagues. Et ça, c'est quelque chose, c'est un sentiment de plénitude extraordinaire.
Oui, la plénitude des ressources que tu dois mobiliser pour arriver à connaître ces moments-là, j'imagine.
Oui, c'est un espèce de paradoxe parce que d'un côté, c'est une liberté extraordinaire parce qu'on est tout seul à prendre des dizaines de décisions par jour sans en référer à personne. C'est donc le contraire de ce qu'on fait à terre. Et d'un autre côté, c'est une prison redoutable parce que résultat, c'est un tout petit espace de vie dans un océan immense. Donc, on ne peut surtout pas mettre un pied à côté. Donc, c'est ce paradoxe-là qui est assez étonnant à vivre. Et qui fait qu'on se sent bien dans cette espèce de toute petite prison de bateau et dans lequel on a une liberté phénoménale.
Et ce fameux Cap Horn, que peux-tu nous en dire?
Alors, à chaque fois qu'on s'en approche comme ça par ce côté pacifique, c'est une approche très longue. Donc, effectivement, les marins du Vendée parlent toujours d'une libération, et c'est vraiment ça, effectivement, parce qu'on sait qu'on va quitter le monde dur pour un monde un peu plus facile, un peu plus civilisé. Mais c'est surtout pour moi, à chaque fois, le souvenir des anciens marins qui ont passé ça avec des catmas, avec des voiliers qui étaient totalement sous-équipés par rapport à nos bateaux modernes. Et c'est un cimetière marin. Il y a un nombre de bateaux dans le fond qui est absolument énorme. Et ça a été des peines humaines terribles. Et j'ai chaque fois un petit peu de respect et d'humilité par rapport à tous ceux qui nous ont précédés là, avec des gros cirés en cuir, en se gelant les mains sur des vergues à 30 mètres de haut. Et franchement, quand on y passe, nous, avec nos facilités, on tire chapeau bas par rapport à tous les marins dont c'est un cimetière qui est là et tous ceux qui sont passés avant nous.
Un marin, c'est bien toi que je peux le dire, c'est une femme ou un homme, puisque ta femme a aussi fait des Vendée Globes, je crois. C'est un homme ou une femme qui doit savoir tout faire et souvent le mieux possible. S'il y avait une seule qualité ou une vertu que la mer avait exigée de toi, tu nous parlerais de quoi?
Ouh, humilité, débrouillardise et ténacité. Il y en a au moins trois, parce que l'humilité, c'est évident. On sait très bien que la mère aura toujours raison et que si on fait la moindre des bêtises, on lâche son attention, ça va se payer cash. La débrouillardise, dans le sens où on est obligé d'un petit peu de pratiquer plusieurs métiers pour entretenir son bateau, son corps, garder le tout en bon état, résister à la mer. Et puis la ténacité, parce qu'il faut quand même pas mal de patience, des moments où c'est long, des moments où on doit tirer sur son physique, sur sa capacité d'endurance. Et voilà, ce sont les trois qualités qui sont un peu indissociables de ce qu'on fait. Et je pense que Yannick est bien placé au niveau des débrouillardises. Son métier d'ingénieur lui permet de parfaitement résoudre les problèmes qui apparaissent.
Et as-tu des projets de mer prochains?
Oui, alors en fait, on a un bateau en aluminium de 17 mètres avec lequel on fait des expéditions. On a fait une tentative de passage du Nord-Ouest en 2018. On a été au Spitsberg, au Svalbard, au nord de la Norvège l'année passée. Donc voilà, on attend un petit peu que la pandémie nous fiche la paix pour pouvoir repartir probablement au Groenland, si possible l'année prochaine.
Formidable. Alors, écoute, on est très fiers de ton aventure. On est très fiers des Cap Horniers à La Rochelle et on va effectivement les honorer. Tu es Rochelais d'adoption et de cœur. Bon, effectivement, on va faire une belle fête pour Yannick qui nous a fait un passage de Cap Horn majestueux ou magistral. Voilà, et on te remercie d'être venu auprès de nous pour parler de tous ces beaux souvenirs.
Ah oui, c'est des magnifiques souvenirs. Effectivement, basé à La Rochelle, on a passé énormément de temps à bricoler, à travailler sur le bateau. On a eu pas mal de complicité des techniciens locaux. Et on a trouvé ça super d'être là à La Rochelle. On a adoré cette période-là. Et on salue Yannick, toute son équipe. Et on les encourage pour la suite parce qu'on imagine bien que dans 4 ans, il sera sur la ligne de départ.
C'est sûr. Merci, Dominique.
Allez, au revoir.
À bientôt.